Mérant ouvert à tous, sans carte de membre, 10 000 produits alimentaires et équipements qualité restauration.
Bonjour, mon nom est Robert Dion, je suis éditeur de la revue Détaillant alimentaire. Je vais être le modérateur de cette balado épicier au détail près, présentée par Mérant. C'est de pouvoir d'achat dont nous allons parler aujourd'hui, mais pas n'importe lequel, celui des épiciers, dépanneurs et autres commerces alimentaires de proximité qui, dans un monde où les coûts augmentent, doivent trouver des solutions pour s'adapter et poursuivre leur mission. Pour en discuter, j'accueille aujourd'hui M. Yves Servet, qui est le directeur général de l'AMDEC, Denis Gendron, consultant ayant présidé UGI pendant 9 ans, et Michel Ferland, DG sortant d'Issicoa. Bienvenue, messieurs, et merci d'avoir accepté l'invitation. Commençons, si vous le voulez bien, de parler de regroupement de forces et comment cette approche est devenue un incontournable. Quand je parle de regroupement de forces, je parle bien de mutualisation, de regroupement d'achat, peu importe comment qu'on l'appelle, de mutuelle, c'est vraiment un phénomène qui est là depuis longtemps, mais qu'on sent encore plus présent maintenant. Puis pour en parler, pour ouvrir la conversation, j'aimerais ça m'adresser à Yves, qui lui dirige vraiment un organisme de regroupement d'achat, de mutualisation. Bonjour Yves.
Bonjour. Quand tu dis incontournable, je ne sais pas si c'est incontournable, mais c'est quand même très important. Nous, à l'AMDEC, ben, c'est un recrutement de détaillants indépendants. Mais quand tu es en affaires aujourd'hui, là, c'est important d'être à l'affût de l'information pour connaître tout ce qui se passe dans le milieu puis dans l'industrie. Donc, en tant que détaillant indépendant, quand tu es membre d'un réseau, d'un groupement, ça vient briser ton isolement. Puis ça vient répondre pas nécessairement juste aux besoins du groupement d'achat puis d'aller chercher des revenus additionnels, mais que ce soit au niveau de l'information, au niveau de la réglementation du milieu dans l'industrie, ben au moins t'as quelqu'un à qui te référer pour aller chercher de l'information pertinente au niveau de l'industrie, au niveau de la formation aussi. Mais effectivement, au niveau de, on parle de pouvoir de groupement d'achat, mais quand tu regroupes tes intérêts dans une structure comme la nôtre, mettons, qui est assez simple, mais ça te permet quand même d'aller chercher des revenus additionnels pour aider à la rentabilité de ton commerce.
Donc, Yves, je suis obligé d'avoir l'image dans ma tête de la mode petit poisson qui forme un gros poisson pour faire peur à d'autres gros poissons. Est-ce que tu penses que au niveau de regroupement d'achat pour des indépendants, est-ce que tu penses que ça peut donner assez de levier à tes membres pour être, je vais dire, compétitif, mais pas juste compétitif, mais aussi profitable, parce que c'est plus juste une question de vente ou de prix de vente, mais de profitabilité dans les entreprises. Je continue avec toi un peu, Yves.
Mais tu sais, je regarde les montants d'argent que l'on remet annuellement à nos membres, c'est quand même des montants appréciables. Fait que c'est pas avec ça tu vas peut-être venir riche, mais c'est un petit surplus qui est très important, puis surtout dans notre domaine, au niveau de l'épicerie et du dépanneur, hein, c'est des commerces, la moindre scène est importante. Donc, quand tu vas chercher, avec la force du regroupement, un montant d'argent quand même appréciable dans le courant d'année, c'est toujours le bienvenu. Puis encore une fois, ce qui est important, là, je l'ai dit tantôt, c'est briser l'isolement du détaillant. Parce que souvent, il est pris dans 50 000 dossiers pour gérer son commerce, puis il manque de ressources. Mais quand t'es membre d'un réseau, d'un groupement d'achat ou d'une coop, mais au moins, t'as un bureau chef à qui te référer quand t'as besoin d'informations.
T'as ouvert la porte au coop. Fait que je vais passer la parole à Michel Ferland, qui a été longtemps impliqué avec des magasins de coop. Est-ce que la coop veut dire un peu la même chose en termes de regroupement d'achat?
Bien certainement, Yves a touché des points hyper importants. Là. Puis une chose que moi j'ai constaté souvent, la coopération, ça a juste de la force s'il y a de l'intercoopération. Dans notre milieu, on dit souvent ça, il faut intercoopérer pour que ça fonctionne. Puis la mutualisation, puis j'aimerais ça souligner parce que j'ai trouvé ça super intéressant ce qu'Yves a dit. Souvent, dans de la mutualisation comme ça, on a tendance à beaucoup regarder l'aspect monétaire, c'est sûr. On parle ici de pouvoir d'achat, c'est important, mais toutes les relations qui se créent entre ceux qui adhèrent à ces regroupements-là, c'est incroyable parce qu'il y a, on est souvent isolé sur une île, surtout les magasins, je pense à des magasins en région qui n'auront pas nécessairement d'autres épiciers à porter là, à plusieurs kilomètres des fois de leur site. Mais ça leur permet de partager leur réalité. Et quand on partage des pratiques, ben inévitablement, on aide notre bottom line parce qu'on trouve des pratiques qui vont nous aider à sauver dans les dépenses souvent et peut-être même des fois faire des liens, mutualiser autre chose que des achats. Donc, on peut avoir des fois des gens qui vont créer des liens entre eux puis qui vont dire, ben pourquoi on prendrait pas une personne qui fait notre comptabilité pour nos trois sites, mettons. Pourquoi qu'on prendrait pas une personne en ressources humaines pour nous aider à recruter pour une telle région. Fait que la mutualisation, ça va plus loin que juste la mutualisation d'achats, mais tout ça, ça leur permet d'avoir un pouvoir d'achat, définitivement.
Denis, évidemment, t'as frayé avec les grosses légumes que je pourrais dire avec des milliards de dollars. Est-ce que on a parlé du plus petit à la coop, parce que dans ton règne au niveau de la direction d'un gros regroupement d'achats, est-ce que tu as vu un peu ça, cette puissance-là qui pouvait même aussi s'adapter au plus gros de ce monde?
Oui, effectivement. Puis j'adhère avec ce que Yves et Michel ont déjà amené. Je pense que, outre les dollars, les économies du coût de temps, du prix d'achat d'acquisition d'un produit, juste les éléments de collaboration, coopération. Michel a fait le point. Quelqu'un qui se sent isolé, premièrement, il vit avec son problème. Quand il a la chance de pouvoir le partager, d'échanger avec d'autres, obtenir des solutions qui sont peut-être beaucoup plus simples, plus faciles et qui vont lui sauver du temps. Puis évidemment, ben des coûts très souvent aussi. Fait que pour ma part, peu importe la grosseur, puis tu sais, je pense qu'en préambule, on dit est-ce que c'est un incontournable d'avoir des regroupements ou de que les gens se regroupent? Juste sur le principe, sans que ce soit par association directe, intense, mais juste pour avoir accès à des ressources additionnelles. Il va mentionner la formation ou les services de comptabilité. Il y a plein d'éléments comme ça qui peuvent être partagés. Il y en a une série d'autres. Quand on regarde toutes les activités que chacun de ces détaillants-là font chaque jour, s'ils faisaient juste un alignement, OK, comment tu le fais, comment je le fais, qui j'utilise, qui t'utilise, juste de pouvoir échanger ça, aligner ça, puis se questionner juste un peu plus. Puis la réalité, c'est qu'aujourd'hui, Yves a fait la mention sur le fait que les marges sont restreintes, les coûts n'arrêtent pas d'augmenter. N'importe quelle économie possible, de quelque façon que ce soit, qui peut être trouvée, est essentielle pour assurer l'avenir. Puis surtout, en même temps, donner la chance à chacun de ces détaillants-là de ne pas se sentir seul.
Puis pas se sentir seul. J'aime ça parce qu'on pense que l'épicerie ou le monde alimentaire, c'est un monde qui est très, très collaboratif, mais finalement, chacun prêche un peu pour sa propre paroisse, hein, Denis?
Oui, premièrement, ils ont tous leur objectif. puis pour avoir interagi avec des détaillants en forte compétition, un envers l'autre, mais quand ils étaient assis autour de la table pour avoir des discussions et des échanges, l'esprit de collaboration était là 100% parce qu'ils avaient tous un but commun. Obtenir quelque chose de positif pour eux, puis qui pourrait aussi bénéficier aux autres membres dans le groupe. Tout le monde y sortait gagnant en autant que tout le monde respectait les règles. Et l'objectif a toujours été de dire qu'est-ce qu'on peut amener plus le rôle que le groupe avec qui je travaillais, qu'est-ce qu'on peut amener à ces gens-là de plus, mais en même temps, il fallait qu'ils fassent leur part eux aussi, qu'ils participent. Fait que c'est tous ces éléments-là de collaboration. Tu sais, pour avoir du succès, quand les gens se mettent à collaborer, ils vont arriver à des choses positives. Puis, surtout parce qu'ils cherchent une solution ou ils cherchent un nouveau moyen qu'ils n'ont peut-être pas utilisé, qu'ils n'ont pas eu accès, puis qu'ils vont peut-être même développer ensemble.
On a beaucoup associé mutualisation au regroupement d'achat, au pouvoir d'achat. Je vais appeler ça la grosserie, là, le côté épicerie, tabac, chocolat. On s'est fait une générale, on sait à peu près où on veut s'en aller là-dedans. Mais présentement, je pense que le marché, le monde le monde de ce domaine-là, je recherche beaucoup plus que juste avoir un chèque sur des achats d'épicerie. C'est un peu ça qu'on essaie de dire, mais j'aimerais voir avec vous où sont les autres aspects qu'on pourrait commencer à explorer. Puis je reviens un petit peu en arrière en disant qu'une des premières mutualisations, ça a été sur des mutuelles de prévention puis des mutuelles d'assurance qui sont la base de tout ça, ou des frais de carte de crédit. Mais j'essaie d'aller chercher un peu sous la roche puis voir vous, vos idées, où ça pourrait situer vraiment le nouveau, je vais l'appeler le 3.0 ou le 4.0, je ne sais jamais où on en est rendu, mais dans le monde de la mutualisation du pouvoir d'achat, où on s'en va avec ça? Yves, je vais commencer par toi.
En tout cas, moi la première idée qui me vient et qu'on a mis en pratique, qu'on a mis en place, c'est au niveau de la formation. Ces gens-là sont seuls, mais ils peuvent avoir besoin de formation pour leur employé. Puis, en ayant un bureau-chef comme ça, qui a une certaine capacité de, puis certaines relations d'affaires, puis comme c'était notre cas, mais on a signé des ententes qui permettent à nos membres maintenant d'avoir accès à de la formation gratuite sans avoir à payer. Fait que, tu sais, ça, c'est intéressant. Fait que, oui, le groupement d'achat qui rapporte des montants d'argent additionnels, mais oui, mettons, la formation où les gens ont accès à cette formation-là gratuite, puis qui leur permet de mieux gérer leur commerce. Je ne sais pas si c'est ça que tu t'entends.
Oui, mais c'est exactement. C'est des genres d'idées où le fait qu'on travaille ensemble. Tu sais, si je peux me permettre, quand je faisais des cours de vente, ils me faisaient faire des jeux de rôle pour essayer de répondre aux objections. Mais c'est un peu ça que tu essaies de dire, Yves. C'est que apprenons à gérer en utilisant les modèles que d'autres personnes font. Puis c'est ça un peu la mutualisation, si je me trompe.
Il y a aussi ce que M. Gendron disait, puis j'en ai parlé un petit peu, c'est briser l'isolement. Puis le fait que des détaillants se réunissent ensemble, puis tu l'as vu, Robert, lors de notre congrès, les gens viennent chercher l'expérience des autres, parce qu'il y a beaucoup à apprendre de ce que les autres vivent, comment un détaillant a réglé tel et tel problème, mais tu sais, on a beaucoup à apprendre. Fait que dans une association ou un groupement quelconque ou un réseau quelconque, mais ça, c'est vraiment important. Puis tantôt, on parlait de profil d'entreprise, mais c'est ça qu'on essaie aussi à faire dans nos profils d'entreprise, c'est d'amener le détaillant à parler de comment il a développé son commerce, puis qu'est-ce qu'il a mis de l'avant pour améliorer la rentabilité, puis de le partager à d'autres.
Puis, de là l'importance pour l'ensemble de l'industrie de continuer à s'informer puis d'être curieux, parce que souvent, ils sont tellement occupés qu'ils ont de la difficulté à aller en dehors de leur commerce puis d'aller chercher des ressources extérieures. Et ça, c'est une chose que la mutualisation de l'information devient un point important. Michel, je suis obligé d'aller dans ta cour puis te parler de ressources humaines un peu, puis en disant, est-ce que tu penses qu'il y a, dans un contexte de rareté de la main-d'œuvre puis de nouveaux emplois que je vais appeler, parce que les postes, les titres ont changé. Est-ce que tu crois qu'il y a une mutualisation qui peut s'opérer au niveau des ressources humaines?
Mais définitivement, je pense que ça va prendre deux formes. Là, on risque de voir un essor un peu des équipes volantes. Là. Ceux qui ont travaillé dans l'industrie qui savent de quoi je parle, là, les couteaux volants et tout ça, je pense qu'on va avoir un essor de ça. Là, une espèce de, ça va aller plus loin que juste en boucherie, puis juste en, il va y avoir beaucoup de secteurs qui vont être impactés. Je pense qu'on n'aura pas le choix de se servir de ces services-là éventuellement, certainement dans certaines régions, si on veut être capable d'offrir des services adéquats. Puis, au niveau des ressources humaines, je pense que ce qui va aider beaucoup au niveau RH, c'est la journée où les épiciers vont passer de voir ce que Yves disait, c'est, il parlait beaucoup d'inspiration. Hein. C'est le fun quand on est plusieurs parce qu'on s'inspire, puis on s'inspire des bons coups. Puis moi, ce que j'aime, c'est de voir des marchands qui osent faire des acquisitions en dehors de leur domaine, qui osent, souvent ils vont se porter propriétaires de leur bâtisse, mais là ils vont commencer à faire un petit peu d'immobilier, puis ils vont commencer à faire d'autres choses. Puis c'est souvent ces choses-là, on the side, qui vont leur permettre de passer au travers des périodes plus difficiles. Hein, fait que quand des fois il y a l'alimentation, c'est plus difficile, c'est un autre modèle d'affaires un peu à côté. Fait que de s'inspirer, de voir qu'il y a des gens qui font ça, parce qu'il y en a plein d'épiciers au Québec qui font ça, ben je trouve que c'est intéressant ça. Je pense qu'on va avoir peut-être plus de regroupements à la fin de gens qui seront, que ce soit des coopératives, que ce soit peu importe le type de regroupement là, qui viendra à terme, mais je pense que c'est ça qu'on va voir. On va avoir beaucoup d'inspiration de ce que peut être l'alimentation de demain. Ça va changer beaucoup le paysage. Je suis convaincu de ça.
Denis, on voit un retour à la spécialisation alimentaire. Tu sais, avant ça, on a encore des grandes bannières, des grandes surfaces, mais la COVID, puis le besoin de services, puis de compétences, a amené beaucoup de même les grandes bannières ont créé des sous-bannières plus spécialisées. Évidemment, ça vient fragmenter les achats de produits spécifiques pour les séparer en catégories. Est-ce que c'est une diminution du pouvoir d'achat de la part de ces grands joueurs-là ou des plus petits joueurs, ou c'est une opportunité de développer des alliances avec des nouveaux fournisseurs ou des nouvelles façons de faire?
Ben, je dirais directement que l'alimentation, le monde alimentaire a changé drastiquement. Puis depuis, ça, c'est pas nouveau, là, ça a toujours évolué. Quand on regarde ce que la pandémie a amené, les habitudes de consommation des gens, il y a eu un grand retour à la maison, des gens qui se sont mis à cuisiner ou des gens qui ont cherché des solutions de prêtes, déjà tout prêt, prêtes à préparer, déjà simplement réchauffées, a amené des changements énormes dans ce que les détaillants offrent, vendent et doivent offrir à la clientèle. Ça amène des défis parce que, premièrement, pour réussir à répondre à ces besoins-là, je pense qu'on peut pas être à toutes les sauces, on peut pas répondre à tous les besoins. Il faut qu'ils soient capables de cibler quel type de produit, quel type de catégorie ils vont peut-être mettre un accent, puis s'assurer qu'ils ont les bons outils ou les bons partenaires pour être capables d'arriver à offrir un produit qui soit convenable, qui réponde aux besoins et qui respecte tous les standards de qualité puis de fabrication et qui soit aussi viable. Puis ça me ramène un peu parce qu'on a touché l'aspect des ressources humaines. Grande entreprise, petite entreprise, aujourd'hui, c'est un défi de tous les jours. Les gens cherchent des employés. Yves a parlé de la formation comme un outil. Puis surtout, quand tu es seul comme détaillant ou tu as une ou deux entreprises, tu vas être limité dans le nombre de ressources que tu as. Est-ce que t'es, puis comment les garder? Le mot rétention là a jamais eu autant de valeur que maintenant parce que oui, beaucoup de gens vont parler de salaire, mais les conditions, les horaires de travail sont pas toujours faciles. Et conjuguer tout ça, puis s'assurer aussi qu'on va avoir de la relève parce que la formation veut pas va servir à former les gens qu'on veut, mais tout individu à un moment donné, puis on le sait, un propriétaire indépendant passe combien d'heures dans son magasin? Passe ses 16 jours semaine, des longues journées bien souvent, où va se limiter, où va prendre des parties. Quoi. Mais un jour, il faut vraiment qu'il soit capable de déléguer, oui, mais d'avoir quelqu'un en place qui est capable de prendre la pôle, puis de continuer à offrir les mêmes services, à répondre aux besoins des gens. Mais quand tu veux faire des changements, puis là, ça me ramène aux nouvelles catégories, aux nouveaux produits. Ça prend l'information, savoir, OK, qu'est-ce que ça prend pour qu'on puisse être efficace, qu'on puisse le faire convenablement? Est-ce que j'ai besoin de ressources plus spécialisées? Est-ce que j'ai besoin de nouveaux fournisseurs ou de tous les éléments de ressources doivent être remis en question? Fait, évidemment, travailler en isolation dans ces situations-là, ça limite beaucoup les possibilités de trouver les bonnes réponses.
Michel, si toi, tu travailles avec des épiciers, tu n'étais pas épicier, mais tu travailles avec des épiciers, est-ce que c'est compliqué de trouver des ressources pour pouvoir nous aider à augmenter notre pouvoir d'achat? Évidemment, on a travaillé énormément avec la mutualisation, avec le dialogue, mais c'est fondamentalement pour augmenter le pouvoir d'achat parce que, veux pas, il y a bien des aspects de notre business. On peut pas négocier le tarif d'électricité puis le prix du gaz qu'on met dans... Donc, il faut trouver des endroits. Est-ce qu'il y a des ressources qui existent? Comment tu vois ça, toi? Si tu rencontrais un épicier aujourd'hui qui disait « Michel, aide-moi donc à augmenter mon pouvoir d'achat », tu dirais de se tourner vers quoi?
Ben, ma réponse va toucher les RH, mais ne parlera pas nécessairement de ressources humaines, mais on doit vraiment, vraiment utiliser tous les sujets qui existent pour aider à faciliter l'intégration de la technologie dans ce domaine-là. Pour moi, il semble évident là, que tout le commerce de détail est en combat pour les mêmes ressources essentiellement. Et en plus, il faisait référence plus tôt, c'est pas des conditions de travail qui sont toujours très, très faciles. On parle de travailler les fins de semaine, en soirée. On parle des fois qu'il y a des gens qui doivent travailler dans des frigos, dans des congélateurs. C'est pas toujours... Et les services à la clientèle, moi, j'ai toujours dit, c'est un sport de contact. Il faut vraiment aimer ça, parce que c'est du contact avec le monde toujours. Donc, à la base, oui, on peut peut-être essayer de trouver, bon, comment être un meilleur employeur. J'en vois des belles initiatives, là. Puis, et ceux qui réussissent le plus, c'est ceux qui s'occupent des employés qu'ils ont. Ils cherchent pas tant à en chercher d'autres, mais de moins en perdre. Mais moi, je dois dire, il existe énormément de façons d'accélérer de l'automatisation présentement. Il faut juste aller voir où cet argent-là se situe et aller en chercher le plus possible. Parce que c'est sûr que la pénurie de main-d'œuvre, on en a pour encore au moins une dizaine d'années, peut-être un peu plus. Et donc, il va falloir qu'on change un peu. Puis là, je vais amener un sujet tabou, là. Je vais peut-être choquer un peu. Mais peut-être qu'un jour, on aura besoin des élus, là. Parce que ça se pourrait qu'à un moment donné, on soit obligé de se poser la question, est-ce qu'on doit garder les mêmes heures d'ouverture qu'on a toujours eues? Puis on peut pas s'attendre à ce que les grandes bannières prennent cette décision-là, parce qu'il y a des grandes bannières compétitionnent avec des très grandes bannières, qui, eux, embarqueront pas. Donc, même si les grandes bannières du Québec s'unissaient pour dire on change les heures d'ouverture, il y a des grandes bannières, on ne nommera pas, là, mais qu'eux le feront pas parce qu'ils sont gérés ailleurs qu'ici, puis ils ne vivent pas, sont pas interpellés par ces défis-là. Donc, l'enjeu, à un moment donné, peut-être qu'on va avoir besoin d'un petit peu d'aide parce que dans la pandémie, ça l'a aidé.
Ça fait partie du pouvoir d'achat. Anecdote, ah oui. Je travaillais dans les jardins mobiles quand que les magasins ont commencé à ouvrir le dimanche. Donc, qui était un fervent défendeur de sa petite niche d'ouverture le dimanche. Puis, tu sais, faut quand même en parler. Quand on a préparé cet entretien-là, on a parlé d'emballage chez Steinberg, on a parlé de la maisonnée, on a parlé des Provipop, des Provibec. Il y avait déjà la notion de pouvoir d'achat dans ce temps-là, puis de mutualisation. Puis en conclusion de ce premier balado, première partie, parce qu'on va revenir sur la technologie puis d'autres styles de pouvoir, puis d'économie circulaire dans la deuxième partie. J'aimerais vous entendre sur chacun votre tour. Je vais commencer par Denis. Sur qu'est-ce que tu penses qui a le plus changé dans justement le pouvoir d'achat des épiciers entre l'époque Steinberg, Provibec, Maisonnée, puis aujourd'hui? Est-ce que c'est plus de commerces qui appartiennent à la même personne ou... Peu importe, je ne veux pas te mettre de mots dans la bouche, là, Denis, je veux que tu me dises qu'est-ce que tu penses qui a le plus changé selon toi. Bien, ça, je vais poser la même question à nos deux autres intervenants.
Bien, le premier mot qui me vient en tête, c'est une importante consolidation du marché. Le marché canadien, pour y avoir été impliqué de façon très importante au cours des dernières années, que ce soit du Terre-Neuve au Newfoundland à aller jusque sur l'île de Victoria, il y a une concentration généralisée avec 3 ou 4 bannières maximum du marché canadien quand on parle de la grosse industrie alimentaire. Et ça a eu ses effets parce que, bon, puis en plus, ils se sont même, dans certains cas, ils ont maintenant des entrées dans le réseau pharmaceutique, où ils sont en train de faire un peu le même phénomène, malgré qu'il y a une réglementation qui protège les marchés de façon différente de ce côté-là. Mais du côté alimentaire, ça a été définitivement... Et ce que ça a créé, c'est les gros sont devenus plus gros. Les plus petits, ben veut pas, ont l'air plus petits juste par rapport à ça. Et tout ce qu'il y avait dans le centre a disparu ou s'est effrité, ou est devenu plus petit, ou a simplement été avalé par les plus grands. Puis, ça a donné la situation dans laquelle on est aujourd'hui et qui ne changera pas demain non plus. On peut pas s'attendre à ce que le marché soit renversé. On est dans cette situation-là. Il faut donc prendre, pour les détaillants qui sont dans le marché, voir cette réalité-là, puis voir comment on s'ajuste par rapport à ça.
Je pense que j'aurais... Là, les questions viennent au fur et à mesure. J'aurais fait un paragraphe complet sur le pouvoir d'achat des marques privées parce que ça a eu un rôle à jouer important. Puis c'est un peu le même phénomène. Ça a diminué les marques nationales et leur capacité de produire, d'inventer puis de rayonner. Fait que ça aussi, c'est un autre... Bon, peut-être qu'on pourra faire un autre balado complet sur les marques privées, mais je voulais juste en parler un peu pour dire qu'on considère tout, mais on peut pas parler de tout aujourd'hui, on a un temps limité. Michel, je te passe la parole concernant qu'est-ce qui aurait changé dans une coop alimentaire, dans un magasin général, local, puis entre dans le temps puis aujourd'hui.
Mais c'est sûr qu'au niveau coop, c'est un modèle d'affaires. Hein. Donc, on gravite aussi dans l'alimentation au même titre que qu'un propriétaire privé. Moi, ce que je peux dire, j'ai beaucoup moins d'expérience que mes deux collègues aujourd'hui. Mais moi, ce que je remarque, c'est une hyper spécialisation. Puis ça fait référence à ce que Denis vient de dire. Hein. En fait, ce qu'on voit, c'est moi je les appelle les terrains de football. Les grandes surfaces vont performer. Et les très petits spécialisés, très, très proches de leur clientèle, un peu comme les coopératives font, hein, souvent. On a de très grandes surfaces en mode coop aussi, mais la coopérative dans son milieu, sa survie dépend de son lien avec ses membres, qui sont ses clients. Là. Donc, c'est comme un peu un écosystème qui maintient ça en place. Mais l'hyper spécialisation aussi, là, de plus en plus, on va voir. Hein, on a vu émerger beaucoup de bio. On voit émerger le sang de zéro déchet. Des niches qui sont en train de pousser. Je pense qu'ils vont prendre leur place.
Les TNN, les Adonis, toutes les...
Exactement.
Les marchés ethniques, OK.
Ouais. Ça, moi, je pense qu'on voit cette niche-là, des petits marchés de proximité dans de quartiers ou dans les régions et les très grandes surfaces. Moi, je pense dans 10 ans, ça va ressembler à ça.
Il y a un pouvoir d'achat là-dedans parce que c'est des produits qui sont moins faciles à identifier le prix, un peu comme le vin d'importation privée dans le restaurant. Je veux dire, c'est plus difficile d'y attacher un prix quand c'est un produit ethnique ou un produit différent qu'un biscuit Christie, là, de M. Christie, là, qui a... Yves, à ton niveau, évidemment, tu représentes une industrie tellement importante, puis tu sais, je suis obligé de parler un peu des déserts alimentaires parce que les commerces alimentaires de proximité comme les dépanneurs essaient de refaire surface dans des marchés qui étaient non couverts, on le sait, mais est-ce que tu penses que la mutualisation puis le pouvoir d'achat peut aider à répondre à ces petits commerces-là qui pourraient aller s'installer un peu plus loin?
Avant de répondre à ta question, Robert, je veux juste revenir sur ce que M. Gendron puis M. Ferland disaient, puis c'est vrai, un des défis là actuellement, puis des problèmes, c'est la concentration dans l'industrie de l'alimentation. On parlait des gros, même les gros ont développé avec leur politique de bas prix une concentration qui a pour attirer la clientèle dans leur commerce au détriment des détaillants affiliés ou indépendants. Puis c'est sûr que nous, hein, on est des dépanneurs indépendants. Fait que c'est sûr qu'on a vécu beaucoup de choses. Même dans notre milieu, là, il y a le dépanneur corporatif qui s'est développé là depuis les années 80, puis encore plus depuis les années 2000. Des indépendants. Puis on a toujours dit qu'au Québec, hein, les dépanneurs, ou pas les dépanneurs, les détaillants indépendants, c'était la force du Québec. Puis je pense que ça l'est encore comparativement à d'autres provinces, mais on s'aperçoit d'une concentration. Couche-Tard se développe tout le temps. Parkland avec les Ultramars se développe. C'est du corporatif. Des plus petits joueurs comme Arnouet développent leur réseau corporatif aussi. Fait que ça, c'est une réalité du marché de l'alimentation, que ce soit au niveau de la grande surface que de la petite surface aussi. Puis par rapport à ta question, Robert, ben c'est sûr, puis M. Ferland le disait, il faut falloir que le dépanneur de quartier se démarque, puis modifie un peu son offre de produits alimentaires en magasin. Moi, je l'avais dit, Robert, il y a quelques années, j'avais déjà été approché par la ville de Montréal parce qu'il y avait déjà là, il constatait dans certains quartiers de la ville un problème de... j'oublie le nom que
tu... Désert alimentaire.
Donc, il essaie de trouver des solutions pour faire en sorte que le petit commerce de quartier puisse offrir du prêt à manger, des mains préparées, des fruits et légumes, ce que tu ne retrouves pas souvent en dépanneur. Mais comment le faire, c'est pas toujours évident parce que dans des produits périssables, c'est difficile à gérer. Mais c'est un défi. Puis M. Ferland l'a très bien expliqué aussi quand il parlait de magasins spécialisés, là, d'avoir une niche. Ça s'est fait au niveau des microbrasseurs maintenant. Tu sais, oui, un dépanneur, c'est un dépanneur, mais il y en a qui ont décidé, ben regarde, moi, je vais travailler les produits du Québec, puis le vin du Québec, les microbrasseurs du Québec. Fait que c'est une manière aussi pour un détaillant de se démarquer. Oui, d'offrir les produits réguliers, mais de se démarquer... que ce soit dans son offre de boissons alcoolisées, que ce soit dans son offre de prêt à manger, de mets préparés qui se développe là, de plus en plus également. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Mais...
Ça répond à ma question. Puis, tu sais, c'est évidemment, aujourd'hui, je pourrais poser des dizaines de questions sur l'identité alimentaire du Québec, puis sur, tu sais, la force de cette représentativité-là des dépanneurs, puis des marchés. Tu sais, quand je regarde la base de données de détaillés alimentaires, on va autant dans les boucheries, les poissonneries, les magasins d'aliments naturels. C'est toutes des tu sais. Puis maintenant, quand je regarde le monde de la restauration dans lequel on œuvre aussi chez HRI, tu sais, le dépanneur est rendu un restaurant, puis le restaurant est rendu un dépanneur. Donc, on voit la grande surface qui a un bistrot. Puis on est en train aussi de voir un monde changer. Donc, le pouvoir d'achat, parce que je veux conclure avec mon pouvoir d'achat, c'est que maintenant, vu qu'on est plutôt multifacette dans nos commerces, il va falloir exploiter aussi le pouvoir d'achat de tous les aspects de notre business et non juste, comme je disais, basé sur la grosserie. Puis c'est là que c'est important de parler aux détaillants alimentaires. Regardez l'ensemble de votre projet, puis allez voir partout où vous pouvez aller chercher des ressources, des bénéfices pour votre entreprise, pas juste dans ce que vous faisiez depuis toujours. Évidemment, messieurs, merci. Je vous dis que c'est la fin de la première partie. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté la deuxième partie, on se prépare à enregistrer. On a une deuxième partie de ce balado. Pour ceux qui avaient écouté l'autre en premier, bien, merci de nous avoir écoutés. Et on se retrouve dans le balado numéro 2 sur le pouvoir d'achat et la mutualisation pour le commerce de détail alimentaire.